C'est en allant dans le Limousin avec Pierre qu'on a découvert la dynamique syndicale là-bas. Moi, je n'y connaissais rien. La dynamique syndicale, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. En tout cas, je trouvais ça vieillot, très communautarisé, etc. Et finalement, j'ai réalisé là-bas que c'était extrêmement ouvert et qu'il y avait des outils en place et il fallait en profiter. Donc, essayer de ramener ça en Sud-Gironde, enfin en Gironde en tout cas, et plus particulièrement autour de chez nous, quoi. Et notamment s'appuyer sur notre réseau privé et amical qui est en train de se créer entre les paysans du coin et d'autres gens qui ne sont pas paysans mais qui ont les mêmes bords politiques, on va dire. Donc toute une dynamique paysanne au sens noble du terme. Ouais.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah.
Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre.
Hey, Copanado.
Climat de lutte, c'est l'émission de l'écologie en lutte tous les jeudis soirs sur la clé des ondes 90.10 de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 13h à 14h.
Nous sommes quelque part dans le sud Gironde, à Cauvignac, entre Ayas et Grignols, près du lac de Cigalens, donc à la limite du Lot-et-Garonne. C'est dans un écolieu, au nom évocateur, l'oasis des petits potes, que se déroule ce samedi 9 mars une rencontre où il est question d'une nouvelle dynamique syndicale, aussi incroyable que cela puisse paraître en ces temps de résignation sociale généralisée. On écoute Raphaël continuer de se présenter.
Pour ma part, je suis paysan installé depuis 3 ans maintenant, bientôt 4 ans. Du coup, moi, comme je suis cotisant solidaire, je me suis considéré comme un sous-agriculteur, entre
guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire, cotisant solidaire ?
Ça, c'est le statut social, en fait, quand on est protégé, un peu comme l'URSSAF quand on est indépendant. Là, c'est la MSA, Mutuelle Sociale Agricole, qui définit différents statuts. Et donc, on est soit agriculteur à titre principal, soit cotisant solidaire. Quand on est cotisant solidaire, généralement, on ne produit pas grand-chose. En tout cas, on n'a pas un chiffre d'affaires très élevé. Et ce qui nous empêche d'être représenté dans les syndicats. Donc, on ne peut pas être adhérent de la Confédération Paysanne si on est cotisant solidaire. Mais on peut être adhérent au groupe jeune émanant de la Confédération Paysanne, qu'importe notre statut, même si on n'est pas agriculteur tout court. Plus sympathisant, et donc c'est vraiment plus un bord politique, ce groupe jeune, qu'une réunion d'agriculteurs à proprement parler. Même si on est tous très proches de la paysannerie et du monde agricole.
Une trentaine de jeunes et de moins jeunes, agriculteurs, agricultrices, installés ou porteurs, porteuses de projets, ont répondu à cette invitation. Ils et elles partagent le projet de défendre une agriculture paysanne. On écoute quelques participants se présenter.
Je viens d'arriver il y a 3 mois à Gajac.
Félix.
Et j'ai un projet du coup de paysan en boulanger. Aujourd'hui je suis boulanger, j'ai mon four, mon type de travail, mais je tarde de cultiver des céréales dans ces magnifiques boules bennes qu'il faut apprivoiser. Voilà, je me laisse le temps de les apprivoiser.
En ce moment, ouais.
Mais je suis picard d'origine, mais là je viens de passer 3 ans à Montpellier au sec, l'eau ça me manquait, donc je suis ravi ces 3 derniers mois. Non, ouais, jamais trop.
Je suis le futur ex-associé du GREC de Marco sur la commune de Bazas, j'habite sur la commune de Castets-en-Dorthe.
Mathieu.
Et je vais déménager un certain nombre de matériels de l'exploitation existante pour m'installer seul en maraîchage diversifié sur la commune de Castillon de Castets, à proximité de l'association agroécologique du Carbo.
Tous et toutes sont venus ici d'abord pour se rencontrer, échanger des expériences et construire les jeunes de la Conf Gironde. Au programme de la journée, des ateliers EducPop animés par Ben et Florine, venus tout spécialement l'un de Haute-Vienne et l'autre de la Creuse.
Non, ça c'est sûr. Tu fuis, voilà ce qu'il faut faire.
Des interventions parfois magistrales, des informations précieuses pour commencer à s'organiser, mais aussi un repas préparé par la cantine de Joanna, la vaisselle faite en cœur. et même quelques voitures à désembourber, car les fossés sont gras en ce printemps pluvieux.
Allez, on remet une voiture dedans. C'est parti.
Allez, faut qu'il enlève le frein.
Florine, toi tu es donc militante de la Confédération Paysanne dans la Creuse, tu es originaire du plateau de Millevaches,
oui.
Tu es jeune agricultrice toi-même.
Moi je suis porteuse de projets agricoles, donc j'aimerais m'installer d'ici un ou deux ans. Et le groupe jeune pour moi c'est un espace qui est super important parce que ça me permet de commencer à militer dans le syndicat, avec soit des amis, soit des camarades. Et des futures personnes à installer. Et c'est un moyen de m'investir, en fait, même si je n'ai pas de reconnaissance directe du fait que je sois adhérente ou que j'ai un rôle particulier dans le comité. Mais d'œuvrer, de faire de la facilitation, d'animer et de proposer des temps de formation pour le groupe Jeunes Limousins, c'est super important pour moi et j'aime beaucoup faire ça. Donc,
D'accord. Ouais. Et tu as acquis aussi des outils d'éducation populaire qui te permettent de faire ces animations?
Oui, et celle-ci, c'était pas tellement dans le cadre de la conf, mais c'est plus lié au BPROA que j'ai fait il y a un an, qui s'appelle Pratique Paysanne et qui est proposé par une association d'éducation populaire, le CREFAD Auvergne. Et aussi parce que par ailleurs, ça m'intéresse et que j'ai été dans des groupes, des formations qui proposent d'animer et de dynamiser les collectifs avec des outils d'éducation populaire.
Voilà. Donc tu venais ici de façon militante avec Ben.
Ouais, Pierre et Raphaël nous avaient demandé si on pouvait venir animer cette journée, cette première journée. Et on a vraiment répondu avec joie en disant un grand oui, parce que c'est important pour nous, en tout cas avec Ben, que les dynamiques des groupes jeunes, elles soient dans un maximum d'endroits. Et pour ça, parfois, c'est chouette d'avoir des gens qui ont déjà vécu ça dans d'autres départements et qui peuvent proposer d'animer et de proposer une trame, d'un déroulé, pour que les gens sur place puissent aussi vivre l'animation et ne soient pas en charge de la logistique et de penser la formation et de penser toute la journée. Donc voilà, et puis ça fait du lien avec les camarades. Et
là, vous allez prendre la position que vous faites le plus en ce moment, dans votre travail. La position que vous faites le plus...
Bon, alors là, beaucoup s'accroupissent. Il y en a qui conduisent.
Alors, il y en a qui font des squats, donc.
Il y en a qui font du clavier d'ordinateur. Il y en a d'autres qui tiennent un outil.
On a des problèmes digestifs, Benoît.
Ouais.
Maintenant, la position dans laquelle vous aimeriez être cet après-midi.
Tout le monde s'annonce.
Ouais. Voilà, voilà. Ouais. La position que vous ne voudriez plus jamais faire dans votre vie. C'est vraiment dur comme question. Vous faire le moins possible. Le moins possible.
Bon, il y en a beaucoup qui se mettent à l'ordinateur.
Prise de conscience. Ok, merci d'avoir participé. Et c'est Ben qui va commencer à nous raconter un peu qu'est-ce que c'est que la conf. Et après, ce sera Cédric qui prendra la suite sur la conf 33. Formerselle jusqu'à la...
Qu'est-ce que la conf? On disait donc un syndicat professionnel donc pour la défense de l'agriculture paysanne et de ses travailleurs et travailleuses. Donc on a posé le fait que du coup c'était un syndicat de patrons, mais qui avait une position un petit peu particulière dans l'espace social. Et cette position, elle est sur le fait qu'on n'est pas seulement sur des revendications qui vont être entre guillemets pour simplement améliorer notre condition à nous, mais sur des choses un petit peu plus larges, voire beaucoup plus larges parfois. Donc l'objectif du boulot à la conf, c'est de développer un travail politique pour peser dans l'idée de travailler à une transformation sociale. n'y a pas juste la défense des intérêts, en fait. Le but, c'est clairement d'aller plus loin. Après, quelle transformation sociale ? C'est justement le projet d'agriculture paysanne et ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. On pourrait en parler plus longuement, mais en gros, la souveraineté alimentaire, c'est le droit des populations, de leurs États ou unions, à définir leur propre politique agricole et alimentaire, sans dumping vis-à-vis des pays tiers. C'est-à-dire sans aller ne pas intégrer certains coûts cachés et du coup avoir des productions qui vont être vendues moins chères dans les autres pays. Là, on se retrouve... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc la souveraineté alimentaire, qui est à la base un concept qui vient vraiment du monde, on va dire, paysan de gauche, et depuis quelques années, est ultra repris par la FNSEA, qui se le sont complètement appropriés. Mais ils se sont appropriés seulement un bout, quoi. Ce qui les intéresse, c'est surtout le côté souveraineté. En revanche, les histoires de dumping vis-à-vis des pays tiers, ce n'est pas vraiment quelque chose qui leur pose problème. De la même façon, la coordination rurale, donc là... Donc la FNSEA, je pense que vous voyez ce que c'est. La coordination rurale, peut-être aussi. Donc c'est un syndicat qui fait à peu près autant que la Conf aux élections professionnelles, autour de 20%, on va dire entre 20 et 25% au niveau national, mais qui a la Chambre d'agriculture dans un certain nombre de départements, je dirais 4-5 en France. Et il y a d'autres départements où ils ne sont pas du tout présents et qui est sur une position encore un peu différente, plutôt, on va dire... assez contestataires, entre guillemets, qui vont facilement aller, par exemple, pointer du doigt les problèmes qui peuvent être liés aux normes, l'absence de liberté qui peut être ressentie par rapport aux normes, mais à tout type de normes, sans faire la différence entre les normes sanitaires ou les normes environnementales ou les normes sociales. Et nous, à la Conf, on va directement se poser ces questions-là et diviser là-dessus. C'est sûr que si on applique des normes sanitaires qui sont faites pour l'industrie à tout prix, à des petites fermes, en fait, ça va être une façon de nous couler. Et c'est complètement absurde. On a des bonnes pratiques, entre guillemets, qui fonctionnent et sur lesquelles qui peuvent être adaptées à notre façon de faire. Donc là, ça peut en effet être un outil pour nous couler. En revanche, sur les normes environnementales, par exemple, ou sur les normes sociales, on va plutôt avoir tendance à vouloir que ça augmente. À la CR, il se pose pas trop la question. C'est juste le moins possible, le moins de normes, le moins de contrôle, en tout cas chez nous. Donc nous, en Haute-Vienne, la chambre est tenue par la coordination rurale. Donc les slogans, c'était « des prix, pas des primes »,« foutez-nous la pelle, laissez-nous travailler »,« pour sauver un paysan, mange un végan », enfin tout ça. Voilà, ils sont soft. Ouais, voilà, en 47, c'est pareil. Je me souviens, il y a quelques années, on était passé, c'était « Hulot de l'eau du glypho ». Simple, voilà. Donc après, il n'y a pas nécessairement derrière le truc qui va dérouler au niveau politique tout ce que ça pourrait impliquer. Là, les demandes, dans la dernière séquence un peu de révolte agricole, là, c'était une année blanche au niveau trésorerie. Alors que nous, on allait beaucoup plus loin, en fait. On voit que le problème qui se pose, c'est vraiment une question de revenus. Et en gros, aujourd'hui, alors bon, je m'égare un peu, mais on peut... comprendre, c'est logique, on est dans une situation absolument merdique au niveau agricole globalement, mais parce que d'un côté, si on a peu de revenus, tant qu'on a une certaine liberté, en fait, ça peut équilibrer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à la fois avec peu de revenus et en plus avec la sensation de plus avoir justement cette liberté qui permettait d'équilibrer de la part de beaucoup d'agriculteurs, entre autres, et donc du coup avec toute cette colère qui peut se tourner par rapport aux normes, aux contrôles, etc. Nous, on propose de plutôt travailler sur l'autre aspect de l'équation, c'est-à-dire sur le revenu. Et c'est quelque chose en plus qui peut rassembler tout le monde, potentiellement. Le problème, c'est que ça met en porte-à-faux la FNSEA, qui n'a pas la même politique entre ce que demande la base et ce qu'eux demandent dans les couloirs de l'Élysée ou de Matignon, quoi. Parce que quand on voit que c'est le président d'Avril, donc c'est un énorme groupe agro-industriel, on sait très bien qu'il ne va pas aller se tirer une balle dans le pied là-dessus, et on sait où il fait ses profits, ses marges, etc. Donc la Conf, pour pouvoir se concentrer sur le travail politique, il y a eu historiquement une stratégie d'externaliser une partie des actions qui peuvent être faites autour de l'agriculture paysanne, qui sont en fait, pour, si on se dit vraiment le projet, c'est de faire en sorte que l'agriculture paysanne devienne majoritaire, c'est énorme en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le travail de politique de lutter contre l'agro-industrie et pour l'agriculture paysanne, mais il y a aussi, par exemple, le travail de développement proprement dit de l'agriculture paysanne. Et ça, en fait, la CONF a choisi, du coup, de le déléguer, entre guillemets, au réseau des ADR. Donc c'est Association pour le développement de l'emploi agricole et rural. Ici, ça s'appelle l'AGAP. C'est
Association Girondine pour l'agriculture paysanne.
Voilà. Et donc, du coup, c'est les associations qui ont pour objectif de rendre ça très concret. Donc, ça va être, par exemple, travailler sur l'installation, la transmission. Ça va être travailler sur les formations, proprement dit. Ça va être travailler sur les groupes, par exemple, des groupes maraîchage pour aller faire des visites de ferme et ensuite pour pouvoir organiser des commandes groupées, etc., de plans de toile tissée. En gros, c'est un peu de quoi on a besoin pour pouvoir concrètement mettre en place notre projet d'agriculture paysanne un peu au jour le jour, entre guillemets. Et du coup, ça permet à la CONF de pouvoir se focaliser sur le travail politique proprement dit, sur lequel on va venir après. Il y a d'autres organisations qui sont autour. Donc il y a eu Solidarité Paysan qui a été créée, je ne sais pas si ça existe en Gironde, mais dont le but... Ouais, c'est ça, dont le but est de venir en aide aux agriculteurs et agricultrices en difficulté à différents niveaux et du coup de pouvoir les accompagner, remettre un petit peu les pendules à zéro, les accompagner au mieux pour pouvoir sortir des crises. Et parfois, ça peut être vraiment remettre les choses à plat pour pouvoir déposer le bilan, etc., machin, et relancer la production d'une autre façon. Et parfois, ça peut être de pouvoir en sortir, mais en sortir le moins mal possible. Idéalement, il faudrait pas que ça existe, mais en attendant, du coup, il y a cette association là qui est là pour faire ce boulot. Et après, donc ça se décline à plein de niveaux. Donc il y a par exemple la FOG qui sert pour l'autogestion au niveau comptabilité et gestion. Ça marche beaucoup par exemple au début quand on fait la DGA, au lieu d'aller payer un comptable, j'en sais rien moi, 3000 balles par an ou quoi, enfin j'exagère un peu, mais 1500 ou 2000 balles, bah, en fait quand on est à la FOG, c'est beaucoup beaucoup moins cher, mais en plus on apprend nous-mêmes justement à gérer ce qui rentre et ce qui sort, et après on se retrouve par groupe de pairs, donc par exemple sur des groupes avec que des maraîchers et sur lesquels on peut même se mettre sur des conditions à peu près équivalentes, et là on regarde vraiment nos indicateurs. C'est en fait hyper important, on oublie que dans l'installation en fait on doit apprendre je sais pas moi 10 métiers différents quoi, en tout cas 10 dimensions différentes, et la question gestion compta, en fait c'est une dimension qui est trop souvent mise de côté jusqu'à un moment où ça nous revient un peu dans la gueule. Mais il faut apprendre aussi, faut avoir des capacités, petit à petit, sur la mécanisation, sur la commercialisation, sur la production évidemment, sur la transformation parfois, sur énormément de choses comme ça. Donc c'est un peu ce qu'on disait ce matin, c'est normal que les premières années ce soit pas évident, surtout quand on n'a pas baigné là-dedans pendant 25 ans avant de reprendre une ferme en fait. Il faut apprendre tout ça. On peut citer l'atelier paysan qui est sur l'autonomisation par rapport au travail du métal. Et à la construction en général, ils font aussi maintenant des bâtiments. Terre de Lien, qui va beaucoup plus travailler sur du coup l'accès au foncier. Enfin bon.
Vous écoutez Climat de lutte avec Sylvie Noni sur la Clé des Ondes.
Et Climat de lutte s'est téléporté cette semaine à Cauvignac, dans le sud Gironde, pour les rencontres des jeunes de la CONF. Ben, militant de la Haute-Vienne, fait un point sur l'histoire du syndicat. Il évoque sa séparation de la FEDE, la FNSEA, et la construction d'autres organismes de solidarité agricole.
On va retrouver à la CONF très souvent au moins deux, voire maintenant trois courants politiques qui sont liés en fait à la création de la Confédération paysanne. Ça vient de deux courants, un courant travailleur paysan, qui a été très vite dissident de la FEDE, qui au début est rentré dedans et petit à petit ont créé d'autres organisations, et un courant du coup de réels dissidents de la FEDE qui se sont mis ensemble à un moment pour créer la Confédération paysanne. Et en fait, ces deux courants qui peuvent conditionner parfois des approches un peu différentes, qui peuvent être amenées sous circuit court ou circuit long, parfois conf de l'Ouest ou conf du Sud ou plutôt réformiste ou je sais pas trop révolutionnaire ou je ne sais quoi, ou sur les modes d'action. Enfin, ensuite, dans les années, enfin à partir des années 70, mais beaucoup plus fortement ensuite des années 80, il y a un courant très écolo qui est venu du coup se rajouter là-dessus. Et en fait, ça fait partie de... ça conditionne aussi nos modes d'action. C'est-à-dire d'avoir une part qui va être évidemment sur le travail politique, le travail d'aller voir les institutions, de vraiment aller faire en sorte d'être représentatif, par exemple au niveau départemental, dans les commissions type SAFER, qui va ou ces DOA qui vont par exemple jouer sur l'attribution du foncier en fonction de certains critères qui sont censés ne pas être défavorables aux plus petits. En général, quand on demande justement à ce qu'il y ait des règles et des contrôles, c'est justement plutôt pour protéger les petits par rapport aux très gros. Les très gros ont tendance à demander aucune règle et aucun contrôle, quoi. Et donc du coup, le fait d'être dans ces commissions, ça permet de concrètement vraiment faire un travail de défense là-dessus. Et parfois, même quand on a l'impression que ça ne fonctionne pas, en fait, on porte une voix qui sinon n'existe pas. Et en fait, on se rend compte que selon comment on la porte, en réalité, ça percole. Mais comme il faut être dedans, croiser les gens, voir, être à l'intérieur des dossiers pour s'en rendre compte, ça paraît loin quand on n'est pas encore installé. Alors en fait, si vous vous retrouvez sur un conflit par rapport à du foncier avec un voisin qui et vous voulez récupérer les mêmes 2 hectares qui sont à côté, et qu'en fait le voisin il a 50 ans et ça va être pour faire des grandes cultures et il a déjà 100 hectares, en fait là vous allez être content que non seulement qu'il y ait des schémas qui existent justement pour favoriser les plus petits en installation, etc. Et en plus, qu'il y ait quelqu'un à la conf qui siège dans cette commission pour pouvoir le rappeler face au fait que malheureusement, parfois, ce type de schéma peut ne pas être respecté. Mais tant qu'on ne se retrouve pas dans ce type de situation, en fait, au début, ça paraît lointain. En fait, c'est un travail essentiel qui est fait au comité départemental et du coup, sur lequel il va y avoir moyen de discuter. Et après, il y a une jambe sur l'action. Les deux se nourrissent, du coup, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un peu tout essayé pour pouvoir faire évoluer les choses, quand ça ne suffit pas, du coup, en fait, il faut passer donc, sur des choses type désobéissance civile, action directe non violente, et qui permettent en fait, d'aller faire sortir les questions à une échelle plus large. On se rend compte qu'en fait, ces deux aspects se nourrissent. Mais évidemment, ça va avoir tendance à tendre le dialogue avec le monde politique, le fait de passer à une autre échelle. Et de l'autre côté, en fait, les personnes qui sont ultra motivées pour y aller sur les actions ont peut-être un peu plus de mal à voir l'intérêt qu'il peut y avoir à dialoguer avec des gens pour lesquels ça donne l'impression de faire un peu tourner en bourrique. En réalité, les luttes victorieuses, la plupart du temps, elles le sont parce qu'il y a une imbrication entre les différentes formes d'action, et ça fait partie de l'ADN de la conf. On pourrait rajouter une troisième jambe sur la formation politique comme quelque chose justement qui permettrait de renforcer ça et du coup d'avoir une dynamisation un peu permanente là-dessus. Et ensuite, du coup, au niveau européen et international, il y a donc la Confédération paysanne fait partie du coup d'une organisation qui s'appelle Via Campesina, qui regroupe des organisations paysannes du monde entier. Donc, qui s'organise au niveau européen pour pouvoir peser sur les décisions à Bruxelles, mais pas que, parce qu'il y a aussi dans l'organisation européenne des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, et pareil au niveau international. Et en fait, ça apporte une ouverture absolument immense, et ça fait aussi partie de l'ADN de la conf sur le côté pas de dumping vis-à-vis des pays tiers. C'est qu'en fait, il y a cette espèce de grande internationale paysanne qui est un truc absolument unique en termes de mouvements sociaux. Enfin, vraiment, ça n'existe absolument nulle part ailleurs dans le monde, et qui d'ailleurs a été à la base de, on va dire, de grands moments au niveau mouvements sociaux, justement, contre l'OMC, donc l'Organisation Mondiale du Commerce, etc. Vamos, pueblo, a volver al campo. Aquí estamos, los pueblos soberanos. Vamos, pueblo, a volver al campo. Aquí estamos, los pueblos solidarios. Y las mujeres del campo, cultivando un milenio de justicia y de igualdad.
en tres décadas de lucha, unidos contra el saqueo imperialista, rendirnos jamás. Somos la vía campesina, anticapitalista. Somos la vía campesina, antiimperialista. Somos la vía campesina, antipatriarcal. Largo caminar en amor, paz y solidaridad. Calizo. Por la vida, la tierra y el territorio, soberanía alimentaria ya. Con Loyala sembraremos el planeta, con agroecología al campo regresar, y así de esta manera nuestro pueblo alimentar. Somos la vía campesina, anticapitalista. Somos la vía campesina, antiimperialista. Somos la vía campesina, antipatriarcal. Largo caminar en amor, paz y solidaridad.
Même ceux de nos auditrices et auditeurs qui ne parlent pas espagnol auront reconnu quelques mots clés dans cette chanson de Via Campesina, dont le refrain est « Nous sommes la Via Campesina anticapitaliste, la Via Campesina anti-impérialiste, nous sommes la Via Campesina antipatriarcale, l'on marche dans l'amour, la paix et la solidarité pour la vie, la terre et le territoire, souveraineté alimentaire, maintenant ». Un autre atelier est proposé aux participants de cette journée de constitution des jeunes de la Conf. Il s'agit d'un débat mouvant autour de la question « Est-ce que le mouvement agricole actuel a contribué à faire avancer la cause de l'agriculture paysanne ?» La règle du jeu, c'est que le groupe se partage en deux camps, physiquement, de part et d'autre d'une ligne, ceux qui répondent oui et ceux qui répondent non. Ensuite, chaque camp doit avancer des arguments pour tenter de faire bouger les autres et changer de camp.
Économique qui, bah, qui provoque ou qui entretient la catastrophe autour du monde agricole, et que c'est, ça n'a pas du tout été une question qui a été développée, médiatisée ou même pas discutée. Ou, enfin, très très peu, alors que si on ne remet pas ça en cause, pas grand chose à espérer. Quoi. C'est ça.
Mais, enfin, je veux dire, ça dépend du à quel niveau on s'intéresse, quoi. Si on analyse le mouvement correctement, avec un esprit critique et une analyse un peu scientifique, je pense que ça a été extrêmement bénéfique au monde paysan. Si on a regardé BFM TV, c'était négatif pour le monde paysan. Donc en fait, voilà, ça dépend, on va dire, à quelle profondeur on s'intéresse au mouvement, quoi.
On a le droit d'être au milieu maintenant, c'est normal, on a entendu des arguments alors.
Tu connais le sujet, plus c'est gris. Il y a un truc par rapport à ça, on est bien sur est-ce que le mouvement agricole actuel a contribué.
Et
clairement contribué, voilà, ça veut pas dire qu'on a gagné. Et du coup, sur le côté libéralisme, on va pas pouvoir tout détruire comme ça en un coup. En revanche, forcer Macron, un ultra-libéral, à parler de prix plancher, ce qui fait gémir tous ceux qui sont dans la co-gestion, etc., c'est bien qu'il y a quelque chose où il a été obligé de sortir de son idéologie, d'une manière ou d'une autre. Et même si c'était une connerie, même si, enfin, il s'en rend compte quand il fait une connerie pareille, c'est pas possible. Et du coup, ça, à mon avis, c'est quand même faire avancer la cause de l'agriculture paysanne.
Moi, je crois pas que...
Pas de rebondissement, des arguments, s'il vous plaît. Qui...
Les prix planchers, c'est un effet d'annonce. Ils sont en train de rattraper nos mots les uns de l'autre. Vous l'avez dit avec la souveraineté alimentaire, parce que c'est pas suivi des faits. Ils récupèrent nos mots, ils récupèrent l'idéologie qu'il y a derrière, l'imagerie qu'il y a derrière, et ils canalisent ça dans leur sens. Donc en gros, ils font un effet d'annonce. Aujourd'hui, il y a des prix planchers. Les gens demain iront au supermarché, ils vont voir qui est aumenté de 20 centimes, ils vont croire que c'est le producteur qui l'a pris, peut-être la grande estive qui l'a pris les marges. Tant qu'on n'a pas la façon de comment ça se concrétise, ils sont juste en train de construire sur nos acquis, récupérer notre imaginaire et nous le balancer dans la tronche.
Non, c'est pas possible. Tu fais bien le mauvais exemple, c'est bien.
Mais ça s'est dit, je suis d'accord.
Ah ouais,
quand même.
Ouais,
mais en termes de récupération d'imaginaire, bon, c'est bonus, hein, c'est cet argument. On a quand même eu droit à un cafouillage médiatique phénoménal la veille du salon d'agriculture où on a entendu que Macron invitait les soulèvements de la terre autour d'une table avec les autres organisations syndicales, ce qui a fait créer la FNSEA. Donc on se demande au bout d'un moment qui récupère l'imaginaire de qui, et bien qu'ils aient rétro-pédalé, ça a été jouissif de voir quand même qu'ils ont été considérés comme un acteur à mettre autour d'une table avec d'autres syndicats. Et ça, c'est le mouvement agricole qui a fait ce truc.
Et TikTok.
Un an après Sainte-Soline, quoi.
C'est juste les réseaux sociaux. C'est pas...
Mais non, c'est, ça, non, c'est les conseillers comme de l'Élysée qui se sont plantés complètement.
C'est juste qu'un média n'a pas
changé d'Armanin. Attention.
Moi, je finis mon argument. C'est bon.
Est-ce qu'il y a des gens qui bougent face à cet argument? C'est ça, la question.
J'avais dit qu'il était bonus. J'avais dit qu'il était bonus.
Il nous reste 5 grosses minutes, donc on a encore le temps d'avoir des arguments. Il y en a un ici, mais est-ce qu'avant cette partie-là veut donner un argument qui n'est pas un rebondissement, mais plus un nouvel argument qui n'aurait pas été nommé ou une nouvelle idée?
Moi j'en ai un, mais contre mon camp.
Ah oui. Ah ben tu peux aller là et tu peux le dire.
Non, je trouve que. En fait, c'est le loup dans la bergerie. Non, je trouve que le problème dans cette médiatisation, c'est qu'on médiatise surtout les paysans qui vont pas bien. Et que si on veut gagner le combat de l'agriculture paysanne demain, il va falloir qu'on soit très très nombreux à s'installer. Et que quand on véhicule ces images-là de métiers catastrophiques, où on va droit dans le mur quand on ne se suicide pas, bah, ça ne va pas donner envie aux gens de s'installer. Et ça risque de plutôt, finalement, nous jouer des mauvais tours.
Vraiment ou pas? Du coup, je ne sais plus qui était dans...
Voilà, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup reculé, là. Ça m'intéresse de savoir.
C'est vrai, il faut des avenirs désirables. Si c'est pas désirable, on n'a pas de paysans. Est-ce que ça a servi la cause? Voilà. Je suis d'accord. C'est pas un argument supplémentaire. On peut lutter contre, hein, mais si on veut des paysans, il faut des avenirs désirables.
Il faut pas mentir.
Moi,
je pense que ça a quand même mis le doigt sur le fait qu'on allait manquer de paysans. Alors, je pense que nous, on est au courant, mais la plupart de la population n'est pas forcément au courant qu'il va y avoir un cruel manque de paysans. Et du coup, oui, ça peut faire peur, ça peut donner envie de pas y aller, mais ça peut aussi faire prendre conscience que ce milieu est dans la merde, quoi, et qu'il faut y aller. Ouais. Donc, un peu de...
J'ai envie d'être positive ou pas.
Je reste à apprendre quand même.
Qui n'a pas pris la parole et a envie de.
Là-bas, c'est un argument aussi. Là.
C'est un chacun.
Oui.
Du coup, dans l'autre sens, ça veut dire que s'il y a moins de paysans, on produit moins à manger. Le citoyen, ce qu'il va vouloir, c'est manger. Donc, pourquoi pas pour lui partir sur des gros agriculteurs qui vont produire du volume pour nourrir les gens, et tant pis pour le petit paysan. Est-ce que le citoyen va privilégier le petit paysan qui galère, ou le gros producteur qui va lui apporter à manger dans son assiette, en volume?
Je vais apporter un autre argument qui va être contraire à ce que je suis.
Il y avait Cédric juste avant, et après ça peut être toi.
Alors je crois que ça fait avancer la cause paysanne, tout au moins local, parce que ça oblige des élus à prendre des positions claires, notamment le maire de Bordeaux, en tant que maire de Bordeaux, a pris une position en disant « Je soutiens la Confédération paysanne ». C'est quand même pas rien, c'est...
Ça aurait pu faire un matic si j'aurais pas fait.
Ça fait pas avancer le revenu sur le moment, mais quand même, ça amène du crédit, et il me semble que ça pèse, quoi.
Allez, encore un argument ici et encore un argument là. Deux arguments ici et deux arguments là, vraiment parce que j'ai envie d'être sympa.
On va essayer de quand même.
Un argument ici.
N'arrive pas à traduire.
Bah, c'était l'argument de l'autre côté, même si je suis ici, que je ne peux pas aller quand même l'autre côté.
Si t'arrives pas, voilà. C'est trop dur à
d'aller. Non, mais bon, c'est pour rebondir sur ce que disait Sébastien, c'est que...
En argument, sous forme d'argument.
On peut se dire, bah, qui dit petite agriculture, petit paysan, prix élevé, et qui dit gros paysan industrialisé, prix bas. Et là, que la population se décide effectivement pour une agriculture industrielle.
Donc rien ne bouge quoi finalement.
Ah, rien ne bouge, même ça s'empire, à la limite. Ça peut s'empirer.
Rien ne bouge,
donc ça avance pas.
Dans ce débat mouvant. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres arguments? Oui, vas-y Ben.
Non, mais il y a toujours cette histoire de prix qui est liée au revenu et on fait comme si c'était la population qui décidait alors qu'en fait c'est l'État au final. Et sur la séquence, on a vu que quand Macron a fait un effet d'annonce sur les pesticides, ça n'a pas calmé la colère. Quand il a fait un effet d'annonce sur les prix planchers, là, derrière, pour l'instant, c'est pas reparti. Donc on va voir combien de temps ça dure. En tout cas, a priori, il y a eu un impact plus important par rapport à l'effet d'annonce sur le revenu que par rapport à l'effet d'annonce sur les questions environnementales qui, comme quoi, c'était pas le fond du problème. Les questions environnementales, c'était un petit bout. C'était un truc sur lequel s'accrocher. Mais en fait, ça a pas fait le même choc que là, ce qu'il peut y avoir sur le revenu. Et le fait d'amener sur le revenu, du coup... Je pense que ça a eu, voilà, que ça a eu un impact et donc que ça a fait avancer le truc phare de la conf, quoi. Voilà.
J'allais bientôt vous retrouver. Ouais. Est-ce qu'il y a encore
Moi,
un argument?
Une question sur les prix planchers. Enfin, c'est plus un questionnement. Qu'est-ce qu'il entend par les prix planchers maintenant? Est-ce que ça veut dire qu'en France, ça veut dire qu'en France, les produits français vont avoir un prix français, prix plancher, mais que les produits importés pourront être plus bas que ce prix-là? Parce que si c'est le cas, il y aura les prix planchers français que les gens n'achèteront pas et les prix plus bas qui continueront d'être vendus venant de l'Europe ou d'ailleurs. Ça, c'est perdu
d'avance.
Bon argument, c'est pas un argument. Oui, non, mais ça, c'est sûr.
Ouais. Ça, c'est
sûr que... Non, là, par contre, vraiment, un dernier argument de ce côté. Et s'il n'y a pas d'autres arguments, on leur laisse pas un autre argument.
Non, parce qu'ils pourraient nous tuer.
Est-ce que c'est bon? Ok, juste prenez le temps d'observer où est-ce que vous êtes. Et souvenez-vous, est-ce que vous étiez au début? Et c'est juste de revoir quel déplacement vous avez fait. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir bougé plusieurs fois? Est-ce que vous êtes resté où vous étiez? Juste refaites ce petit... Votre parcours pendant le débat mouvant en 10-15 secondes, à essayer de vous visualiser.
Moi, j'ai un argument.
Ah, c'est fini, c'est trop tard.
Je peux pas m'empêcher.
C'est trop tard.
À la pause.
Donc en plus, c'est... Ben là, maintenant, pour finir, ce moment-là, on peut marcher.
Passer de l'autre côté.
On peut, voilà. On est sur la ligne.
Bon, en fait, c'est vrai que c'était de la merde.
Et hop, on repasse de l'autre côté. Ok, là, je vous invite juste à... Vous pouvez bouger les bras, vous pouvez tendre les mains vers le ciel. On se détend après ce moment de débat mouvant, très clivant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à bouger les mains, à souffler. Ben, souffle. Enlève les tensions, là.
Non, on continue, là.
Qu'est-ce qu'on peut casser?
Ok. Merci pour votre participation à ce débat. Et là, on a 15 minutes de pause.
Bonne inter, je sais.
15 minutes de pause, faites ce qui vous fait du bien. Buvez, mangez, étendez-vous.
Pour développer les arguments.
C'est la pause, mais tout le monde discute.
Je rappelle que c'est une
pause. Je sais, non seulement le monde agricole est droite, global,
j'ai envie de m'en rapprocher localement pour voir que
ouais, puis tu dis bah ouais, après il faut qu'on se passe un peu
et que finalement, mais ça me motive parce que plus à me dire bah faire les choses d'en bas aussi quoi, d'amener plus de poids, plus de parole à la base, et ça finira par
c'est de la méconnaissance, c'est pas de la volonté de
c'est ça, ils ne connaissent pas en fait.
Mais du coup, pour moi, ça veut dire que c'est à la conf de s'organiser pour réussir à expliquer tout ça aux élus, enfin, c'est le rôle des syndicats quoi. entre autres, c'est pas que, mais entre autres, il y a des choses à faire. Il y a une écoute maintenant.
Alors, la conf, elle est née en 1989, en Gironde. Je sais qu'il y a notamment Jean-Pierre Leroy, okay. Jean Jo, enfin, ce sont des historiques.
Cédric, secrétaire départemental de la Confédération de la Gironde, fait la présentation du syndicat, de son organisation et de ses luttes.
Ça oscille un peu, mais on tourne entre quasiment 70... Ouais, 70 et 80, quoi.
Ok, 70-80 personnes. Et combien il y a de membres dans le comité départemental ?
Alors, cette année, on est 7.
Ok.
Ça tourne à peu près à ce chiffre-là, depuis quelques années.
Donc, 7 personnes qui sont des membres actifs et actives.
Voilà, donc, dans la composition de ces 7 membres, donc, il y a Dominique Téchère qui est porte-parole. Vigneron bio sur Pomerol. Il y a Vincent Lamoulaire, vigneron en bio, biodynamisme dans le Blayais, qui est donc le co-porte-parole. Catherine Jean est trésorière, vigneronne sur l'Entre-deux-Mers. Après, il y a Gaël Jean, qui est membre du comité départemental et vigneronne aussi sur l'Entre-deux-Mers. J'oubliais qui. Il y a Patricia Haroldi qui est membre et vigneronne sur le sur Castillon. Kenza Joumagi qui est en cours d'installation. Non, elle est en cours d'installation, je crois.
Oui. Elle était là ce matin, ouais.
Voilà, vous l'avez vu. Et donc après moi qui suis secrétaire départemental.
Donc il y a majoritairement des femmes ou j'ai mal compté là ?
Je pense que tu as bien compté.
Ouh, bravo. C'est tellement rare. Ok. Voilà. Ça fait plaisir à écrire. Ouais.
Comment ils sont attribués ?
Ouais.
Alors...
Ouais. J'ai pas noté la production.
Tout d'abord, le comité départemental, il est, avant d'être comité départemental, c'est un ensemble d'adhérents qui se présentent au cours de l'Assemblée Générale et qui sont élus par l'Assemblée Générale. Et une fois que cette élection est faite, il y a une réunion qui se fait et là on détermine qui veut prendre les postes de secrétaire. Ben après il y a le bureau. Et donc là le bureau il est composé de 4 personnes. Donc moi en tant que secrétaire, Catherine en tant que trésorière, Vincent et Dominique en tant que porte-parole et co-porte-parole.
Et le local, il est où ?
Alors, on a déménagé, on était rue de la Course à Bordeaux et maintenant on est avenue Labarde, c'est toujours Bordeaux. Donc c'est au pied du pont d'Aquitaine. Dans ces locaux, donc il y a également la GAP, la CONF Nouvelle-Aquitaine et l'RDR Nouvelle-Aquitaine. C'est un local, ça c'est un... Enfin, je fais un petit focus là-dessus. Ce local, on l'a eu par la mairie de Bordeaux. Et ça, c'est le fruit d'un travail assez intense dans le relationnel avec les élus et les institutions. C'est-à-dire que finalement, c'est une manière de nous affirmer une reconnaissance et un soutien par ce local. Donc ça, pour nous, c'est quand même une belle victoire. Donc le Minagri, je sais pas, ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est donc de l'argent qui arrive directement de la Conf nationale et qui est, c'est une enveloppe qui est distribuée à chaque syndicat par le ministère de l'Agriculture en fonction du résultat des élections chambres. Notez bien ça, là, je laisse ça en suspens comme ça, on y reviendra après.
C'est quand même un truc vachement important parce que en gros chaque voix. Il me semble que c'est quelque chose de l'ordre de 180 euros par an pour le comité départemental. C'est vraiment beaucoup. C'est pas négligeable. Et du coup, dans les élections professionnelles, c'est un des enjeux, clairement. là-dessus, quoi. Donc on comprend que la Fédé du coup croule sous les sous et que nous on galère un peu, mais qu'on soit quand même obligé d'y aller vraiment sur les élections professionnelles, quoi, parce que de ça découle énormément de choses derrière. Question, est-ce que les personnes qui rentrent dans le comité départemental sont obligées de prendre un rôle, par exemple, de représentation institutionnelle?
Ah, mais d'entrée, ils sont chefs, d'entrée.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est vraiment, t'as pas le choix.
Voire plus.
C'est direct tiré, hop là.
Après, on est mes chefs, quoi, je veux dire. Non. Alors déjà, il y a peut-être une étape intermédiaire avant de rentrer dans le comité départemental. Hein. Je pense qu'on peut être adhérent et prendre un sujet en main et décider à deux, trois personnes de se dire, voilà... moi, ça me botte, et bien moi aussi, allez, claque, on se fait un petit groupe, on travaille dessus. Ben, moi, je fais le lien avec le comité départemental de façon à ce qu'ils sachent, éventuellement qu'ils puissent nous appuyer. Et puis après, un jour, il y a peut-être quelqu'un qui décide de rentrer dans le comité départemental. Il peut d'abord observer ce qui s'y passe, et après, s'il en a envie, il peut prendre des fonctions. Mais il n'y a rien de figé.
Les jeux sont obligatoires, du coup.
Alors, juste pour comprendre cette histoire d'arrachage avec la prime dite à l'arrachage, il y a deux volets. Il y a un volet qui est le volet diversification, qui contient les deux tiers des surfaces, qui est financé par un emprunt du CIVB. Hein. Donc ça, c'est sur la partie diversification. Et donc, c'est plafonné, puisque le CIVB a fait un emprunt avec un montant déterminé. Et l'autre tiers, c'est ce qu'ils appellent la partie renaturation, qui est un volet financé par l'État et par l'Europe. Et là-dessus, il y a deux voies. Soit on choisit d'arracher, de mettre ses terres en jachère pour 20 ans. Soit on choisit d'arracher et on confie la mission du reboisement. Je sais pas si c'est 20 ou 30 ans, là j'ai un doute. 30. Il me semble que c'est 30. Par une coopérative. Voilà. Qui est la seule accréditée par l'État français pour pouvoir faire ça. Les petits producteurs du Sud-Ouest. Donc ça concerne 9 000 hectares et aujourd'hui, il faut en arracher 30 000. Alors, c'est ce que la Confédération paysanne dit depuis longtemps et c'est ce que commencent à dire certaines institutions sur le bout des lèvres. Voilà. Et donc là-dessus, y a plein de soucis puisque en fait, il y a plus de diversification que de renaturation. Du coup, soit ils tordent le bras à certains en leur disant si vous voulez avoir en gros à peu près 6 000 euros, vous prenez la voie de la renaturation. Sinon, on applique un coefficient stabilisateur. Et donc, au lieu d'avoir 6 000. Voilà, donc ils se retrouvent à 4 000. 4 500 euros. En sachant qu'ils avaient dit, l'arrachage, ça coûte moins de 2 000 euros. Donc aujourd'hui, on voit que les devis qui sortent, c'est plutôt 2 800, 2 900 euros. Et que le CIVB, puisque c'est sur la voie, c'est un emprunt qu'il fait, toutes les cotisations que n'ont pas pu payer les vignerons, ils se les prélèvent là-dessus avant de vous donner l'argent.
Juste le CIVB, c'est clair pour tout le monde ?
C'est l'interprofession viticole. Donc autant vous dire que le vigneron, s'il n'y est pas de sa poche, c'est qu'il a bien joué le coup, hein. Derrière, l'une des tentations, c'est le photovoltaïque. Mais après, on a entendu des trucs. Là, il y a un projet qui se fait à Montsalvat. Alors, ce n'est pas sur de la terre viticole, mais par exemple, il y a un projet qui se fait sur Montségur. C'est 70 ou 80 hectares. Ils vont artificialiser 2 hectares pour faire une plateforme de compostage. Et comme ils n'ont pas assez de matière, ils vont planter le reste en miscanthus. Voilà, donc c'est les fameux projets. Donc si on ne contrôle pas, voilà, la tentation va être ça. D'autant plus qu'on commence quand même à entendre, ils commencent à dire que les terres viticoles sont des sols pollués. Donc le rapprochement va être fait avec... on va classer ça sur le même niveau que les décharges. On ne peut rien faire d'autre chose que des projets photovoltaïques ou éoliens, ou je ne sais pas, mais voilà, des projets qui sont non agricoles. Donc nous, aujourd'hui, notre combat là, c'est de dire, il est urgent, et on l'a dit aux collectivités au Salon La Ferme, soit de renforcer ce qu'on appelle l'EPF, l'établissement public du foncier, pour qu'ils puissent prendre en charge ces terres, pour les mettre sous protection, qu'on les réhabilite et qu'on les redistribue, qu'on les rende aux paysans. En tout cas, voilà, ça c'est notre combat du moment.
Reforma agraria integral y popular. Ahora sí, ya se nos llegó la hora.
Raphaël et moi-même, on s'était rendus aux rencontres des groupes jeunes de toute la Nouvelle-Aquitaine qui se tenaient en Limousin, en Haute-Vienne. Et donc on y avait participé il y a 2 ans au nom de la Gironde. Et c'est vrai qu'on était repartis gonflés à bloc de ce week-end en termes d'énergie militante, de rencontres, d'échanges, de moments festifs partagés.
Pierre, un des instigateurs de cette rencontre.
Et suite à ça, on a participé à la seconde rencontre qui a eu lieu l'an dernier en Haute-Vienne toujours. Et là, on s'est dit, bon, c'est pas possible qu'on continue à être que deux seuls de Gironde. On est observateurs, on est sympathisants, mais il faudrait qu'on fasse ça chez nous aussi, que ça SM, quoi. Et donc, comme on a eu des bons contacts avec certaines personnes là-bas, elles se sont proposées de venir animer une journée ici en Gironde pour lancer du coup ce groupe jeune girondin. Et ça a été très bien accueilli aussi par le comité départemental de la Confédération Paysanne de Gironde qui nous a soutenus dans la démarche et nous a même soutenus financièrement aussi. Et suite à ça est partie une invitation avec des participations plus grandes qu'espérées. La spécificité qui est générationnelle, hein, qui est un phénomène de société, c'est qu'on n'est pas issu du milieu agricole pour beaucoup d'entre nous, quoi, l'immense majorité. Et que du coup, non seulement il faut apprendre beaucoup de choses en termes de formation, il faut trouver du foncier, mais qu'il y a aussi, du coup, sur ce qui nous intéresse, le point syndical et politique, un manque de transmission, un manque de mémoire militante aussi, et qu'il y a tout à reconstruire aussi de ce côté-là. Donc de se rapprocher de la Confédération Paysanne de Gironde, mais aussi de voir que les lignes bougent, que les choses évoluent, que si on veut faire ce groupe jeune, c'est qu'on a aussi des aspirations qui nous sont propres. Donc je dirais que c'est un peu ça le trait de cette nouvelle génération.
La journée touche à sa fin et c'est l'heure des bilans.
Moi j'ai 36 ans, donc c'est de la reconversion, mais je suis agronome de formation, donc quand même dans le milieu agricole, et issue d'une famille d'éleveurs.
Amélie, une porteuse de projet.
Et ben moi mon projet c'est de m'installer en élevage, bovin laitier, et je cherche du foncier en ce moment, même des associés, parce que c'est mieux de faire ça à plusieurs. Et donc Sud-Gironde, là où on est aujourd'hui, ou Entre-deux-Mers. Et donc une ferme d'élevage à reprendre idéalement pour remettre de la production laitière en Gironde, parce qu'il n'y a plus que 40 éleveurs laitiers dans tout le département, alors qu'on mange tous du fromage, je pense. En tout cas, on est beaucoup à aimer le fromage et le lait, et c'est important aussi pour l'agroécologie de remettre de l'élevage.
Et donc tu viens ici dans ce week-end parce qu'en même temps que ton projet personnel et professionnel, tu as un projet aussi peut-être plus global autour de l'agriculture paysanne et des valeurs que tu veux défendre et porter.
Exactement, c'est exactement pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que c'est important pour moi, comme pour beaucoup de gens qui s'installent, je crois, de trouver un endroit où on se sent bien. Alors c'est pas juste le foncier, c'est pas juste la ferme, mais c'est aussi le territoire, les liens qu'on peut tisser, l'entraide qui est plus que nécessaire avec les autres agriculteurs, les autres paysans du secteur. Et c'est pour ça que je viens là aussi, pour voir comment ça se passe, qui sont les paysans qui sont installés en Sud-Gironde, comment ils s'organisent, ils travaillent entre eux, et si moi je pourrais y trouver ma place. Et en tout cas, ce que je retiens après cette journée passée avec eux, c'est que il y a un tissu qui est là, et ça, en fait, ça donne de la force pour s'installer et pour se dire je pourrais avoir des galères si je sais qu'il y a des copains voisins paysans à côté, c'est bien quoi.
Parce que le métier de paysan est quand même souvent un métier de solitude.
Ouais, c'est ça. Et puis, je crois qu'on... Enfin, surtout en élevage, et encore plus en élevage laitier, parce qu'il y a l'astreinte quand même de la traite, l'astreinte des animaux. Ça veut dire qu'il faut être sur sa ferme en permanence. Donc, c'est compliqué. Et la solution pour réussir quand même à continuer à avoir des éleveurs qui soient heureux, c'est le collectif. Et moi, dans ma réflexion, je me dis que le collectif, il y a deux manières de le faire. Soit c'est un collectif sur la ferme, un GAEC, où on est plusieurs sur une même exploitation agricole. Ce que je cherche, mais il y a aussi la possibilité d'avoir le collectif en dehors de la ferme et avec tout ce qu'il y a autour. Et ça peut être une alternative. Si moi, demain, je trouve pas d'associé ou de ferme à rejoindre, et ben je peux aussi miser sur du collectif extérieur. Con emigrantes y asalariados, reforma agraria integral y popular.
Ce que je veux dire, c'est que le but, un des buts de cette journée, c'était aussi de, qu'on se connaissait déjà quelques-uns et qu'on se voyait dans plein de contextes, et que là, le but, c'était de se voir dans un contexte où on réfléchit à des questions politiques et syndicales, et ce serait cool de poursuivre une dynamique de groupe et pas juste d'en reparler individuellement quand on se reverra dans un contexte, enfin, vous voyez, de formaliser un peu le groupe qui émerge. Et juste à ce propos, du coup, moi, comme j'ai géré les inscriptions, j'ai vu qu'il y avait au moins 2-3 personnes qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui, mais qui étaient demandeuses de savoir ce qui s'était dit et si elles pouvaient rejoindre le truc plus tard. Donc, je veux bien prendre en charge cette
tâche du compte-rendu.
Bah, j'espère moi, j'ai souvenir aussi que du coup, parce qu'on s'était retrouvés, bon, on avait pris l'apéro, c'était cool, tu vois, mais au-delà de ça, on n'avait rien vraiment de concret, tu vois. On avait parlé peut-être éventuellement de chantiers participatifs, des trucs comme ça, mais tu te rappelles, ça restait très, très, très flou.
C'était embryonnaire, c'est sûr.
Ouais, c'est. On ne savait pas si ça. Même au niveau territoire, du coup, c'était parti d'une assemblée générale de la conf, ça.
Oui.
Et du coup, après, on l'a mis en place dans le sud Gironde, qu'on savait pas si Saint-Macaire en faisait partie. Et puis, on était resté un peu dans ce flou-là.
On voulait faire des groupes locaux.
L'action, on a juste mettre qui veut participer à quoi, mais là, vraiment mettre des idées d'action. Comme pour la. Ça branchette, mais pour la liste de paysans, pour la diffuser, distribuer aux consommateurs pour leur mettre dans la tronche les trucs graves qui sont pas au courant. Moi j'avais pensé faire des marchés ou sur les parkings des grandes surfaces ou dans un coin qui n'est pas privé pour ne pas se faire dégager. Il y a plein de choses à faire.
Non convertir, on voit ça comme force. Mais si chaque paysan mettait un petit autocollant sur son stand,
Et la prochaine fois qu'il y a ça entre lignes, tu fais quoi?
Ça n'empêche pas.
Et j'étais pas contre, genre que ce soit trop clair. Hein. Mais
il y a
genre,
la cagoule, t'as pas de problème.
Voilà, ça allait à la livre, tu vois.
Et je me dis qu'aussi, un des trucs de ce groupe, ça peut être aussi de s'organiser localement quand on veut faire des covoiturages pour celles et ceux qui veulent y aller, hein, c'est pas pour forcer les gens, mais de se dire qu'on est déjà quelques-uns, et ça peut être sympa aussi d'organiser des covoiturages quand il y a des actions, des événements comme ça, là, qui touchent directement à l'agriculture paysanne, en plus au sujet de l'eau et de son accaparement avec la cible. Donc c'est juste pour continuer d'apprendre à se connaître et à se déplacer ensemble quand il y a des dates comme ça peut être cool de penser à ça.
Je rebondis là-dessus, qui peuvent nous concerner, notamment pas obligatoirement genre de la conf, parce que c'est pas obligatoirement des actions qui sont agricoles, tu vois, mais sur la LGV ou des choses comme ça, où on peut clairement s'identifier avec nos drapeaux et dire non, on est paysan, là-dessus.
J'assume de devoir revendiquer que je suis à la conf, j'assure même de m'affronter avec des paysans locaux si tu veux, mais par contre, après, la réalité c'est qu'on partage tout avec eux. Que ce soit la CUMA, quand tu vois ce que c'est dans les groupes de réunion. Donc après, on doit construire avec ces gens-là.
Je pense que tous ces gens qui se sont installés, qui arrivent avec une vision nouvelle de l'agriculture, ils ont envie de faire quelque chose sur ce territoire. Et moi, si je suis venu à cette journée-là, c'était avec cette intention de proposer ça. C'est que le groupe serve à faire connaître le fait qu'il y a des agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui sont sur le territoire, que ces jeunes agriculteurs, ils ont envie de mettre en place des choses. Je pense à la boulangerie de Cigalas, par exemple. Et qu'on a envie de faire d'autres choses encore, sans doute au niveau du territoire.
Enfin, là, moi j'ai appris des trucs sur Ayas et le poste électrique et enfin, tous les futurs délires d'agrivoltaïsme. En fait, c'est vrai qu'il se passe des trucs sous notre nez et peut-être que si certains ont des infos, on va avoir le coup de les partager aussi.
Après, il faut faire attention aux infos et aux sons de cloche aussi. Il faut bien tout le temps vérifier parce que des fois c'est pas
trop. Mais c'est d'où ce mot enquête quoi. Enquête, ça veut dire que tu fais un travail où tu vas vraiment approfondir, chercher tes sources.
Je précise parce que.
Et essayer de voir en fait ce qui se passe localement chez toi pour. En effet, c'est pas. Moi je n'oppose pas le fait d'aller dans le Marais Poitevin et ce qui se passe ici. Hein. Mais c'est vrai que en fait, des fois il se passe des trucs par chez nous et on n'est même pas au courant. Quoi.
La journée s'achève, Climat de lutte souhaite bon vent aux jeunes de la conf et à tous ceux qui s'engagent aujourd'hui pour construire une agriculture paysanne, la seule capable de nous nourrir demain. Parce que si nous bougeons, nous, ceux d'en bas, dit la chanson via Campesina, le capitalisme part en vrille. Et c'est bien là notre espoir. À la semaine prochaine.